19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver, vous le savez, c'est parti pour les informés quotidiennement vous accompagnent. Au sommaire de cette émission, pour commenter, décrypter et analyser l'actualité, vous le savez, c'est parti, et bien nous allons vous concocter direction Mantes-la-Jolie. Tout d'abord dans le 78, où nous allons parler, vous savez, de ce fameux festival, la deuxième édition du Festival Ciné Mantes qui revient pour une édition exceptionnelle. Nous en parlerons avec son organisateur, justement, qui sera avec nous, monsieur Mohamed Cheikh, qui sera en direct depuis Mantes-la-Jolie pour parler de ce festival. Ensuite, les débatteurs influenceurs s'empareront du micro pour commenter et confronter leur point de vue, puisque figurez-vous, nous reviendrons sur trois sujets qui ont retenu notre attention. Alors, la conférence de Mélenchon sur la Palestine. L'université de Lille interdit l'événement. Ça mérite une clochette quand même. Parce que figurez-vous que, les mélenchonistes ne sont pas contents, ils sont même en colère. Est-ce que Mélenchon, la question qu'on posera, dérange-t-il tant que cela? Puisque figurez-vous qu'il pose problème, et puis durant cette campagne, il faut croire que c'est la guerre, évidemment, de la bataille même d'ailleurs, tout simplement du terrain concernant les élections européennes. Opération Place Net XXL, plusieurs interpellations, mais partout en France. Est-ce que cela semble d'une efficacité sans précédent? Nous en parlerons, nous reviendrons sur ce sujet, puisque visiblement, le ministre de l'Intérieur semble, lui, effectivement, apporter un constat du terrain. L'Iran, nous allons en parler face à l'Iran. Benjamin Netanyahou, silencieux, et vous savez quoi, il réfléchit à la thèse de se dire qu'il peut y avoir une réplique israélienne. Sauf que s'il y a réplique israélienne, est-ce qu'on ne risque pas d'aggraver justement les choses en déclarant ouvertement une guerre Iran, Israël et sur toute la région du Moyen-Orient? La guerre en Ukraine, vous savez, il y a une déclaration. Il y en a un, je ne sais pas à quoi il joue. Il mérite une clochette quand même. C'est le président de la Russie. Alors je sais pas, quand je dis à quoi il joue, c'est que parfois il balance comme ça des phrases déjà toutes faites. Il dit la guerre nucléaire est inévitable. En gros, 250 millions d'Européens vont mourir. Je balance ça comme ça, tiens. Paris détruite avec 6 missiles. À quoi il joue le président de la Russie là? Il veut faire quoi? Il veut terroriser les Européens? Il veut faire peur? Ou alors il veut déclarer une guerre mondiale? Et tu t'attaques à l'Europe, tu provoques une guerre mondiale. Ah oui, si l'Europe, il y a les 250 millions qui sont terrifiés, ben c'est aussi la Russie qui est terrifiée. Certains vous diront, œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Nous allons parler, vous savez quoi, du Code 9 avec le docteur Majid Siouchine qui revient avec son billet d'humeur. Ça se passe à 19h50. Et puis quand vous êtes nombreux à nous écouter tous les jours, je dois dire que ça fait plaisir. 01 53 48 3000, ça c'est votre numéro, il n'a pas changé. Vous nous appelez et Solal vous accueille avec grand plaisir au standard. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Mohamed Cheikh. Bonjour Mohamed, comment ça va Mohamed Cheikh?
Salut Adil, ça va, merci. Et toi, comment vas-tu?
Mais je vais très bien, quel plaisir que vous soyez avec nous dans les informés.
C'est vraiment plaisir.
Mais carrément, alors on va parler d'un festival, vous êtes à la tête d'un festival qui s'appelle le Festival Ciné Mantes, qui revient pour sa deuxième édition, dites donc là, c'est le 20 et le 21 avril prochain, donc ça veut dire dans quelques jours. Alors parlons-en justement, ce festival qui commence à prendre un peu de l'ampleur. Alors l'objectif de ce festival, c'est précisément, il s'adresse à qui précisément?
Alors, on a fait un appel à candidature auprès d'un site dédié à tous les réalisateurs, tous les travailleurs du 7e art, tous ceux qui travaillent dans le 7e art, et le thème principal, c'est le sport pour le clin d'œil des JO. Et effectivement, c'est la deuxième édition à l'espace Brel à Mantes-la-Ville. Mmh. Et on s'adresse justement à tous les réalisateurs indépendants qui, il n'y a pas de frontières. Hein. C'est vraiment, on a eu plein de candidats de tous les coins de la France. Et on est super ravis que ça prenne, parce qu'on a quand même des membres du jury prestigieux. Il y a Omar Diaw, un grand acteur.
Oui, qu'on a accueilli ici plusieurs fois, effectivement.
Et oui, il fera partie des membres du jury. Il y aura aussi Eric Troussel, c'est un directeur de production qui a produit pour M6, pour des grands, enfin, je ne vais pas citer les noms, hein, mais des grandes enseignes aussi. Et Anaïs, qui est réalisatrice également, influenceuse et elle développe également des événements autour du cinéma.
Bon, parlons-en justement. Cette deuxième édition, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des histoires qui tournent autour du sport. C'est ce que vous avez demandé, en tout cas, au réalisateur. C'est quoi ? C'est des courts-métrages, des longs-métrages essentiellement ? Et est-ce que quelle va être la programmation précisément durant ces deux jours ?
Alors effectivement, c'est un festival du court-métrage. Et donc ça sera le samedi 20, l'ouverture des portes pour le public, ça sera 14h.
À la salle Jacques Brel à Mantes-la-Ville. Hein.
C'est ça, à l'espace Brel de Mantes-la-Ville. Et 14h, ouverture des portes pour le public. Donc il y aura 14h30 une projection, la projection du film. En fait, c'est un film qui a été réalisé par des jeunes de notre association qui se nomme Sans que tu erres. Et il y aura plein de surprises, évidemment. Donc la présentation de ce court-métrage réalisé par Clément Lacroix et Raphaël Roca. C'est des petits jeunes qui sont sous l'aile de Arish Galin, qui est un réalisateur et c'est un responsable du pôle audiovisuel de l'association Sanctuaire. Et ensuite, bah, également des membres de petites pépites de Mantes-la-Ville, hein, qui se nomment, c'est un collectif qui s'appelle La Pellicule, et qui eux-mêmes on réalise un petit court-métrage, donc on les met en lumière aussi par le biais de ce festival. Et les candidats, parmi eux, il y aura un vainqueur. Et ce vainqueur-là sera systématiquement sélectionné pour le lendemain, donc le dimanche 21. Et c'est là où on va dire la cour des grands, si je peux dire ça comme ça, avec un autre programme. Donc là, je passe à dimanche, à dire, hein, je me permets d'enchaîner.
Bien sûr, allez-y, c'est fait pour, hein, parce qu'on doit en parler, justement, de ce festival ciné.
Merci, Adil, c'est top. Et donc, 14h30, encore une fois, ouverture pour le public, ça sera à 14h. 14h30, 15h30, il y aura le masterclass, donc, et session, interaction avec le public et les membres du jury, qui sont, justement... des professionnels du monde dans le domaine du cinéma et qui répondront à toutes les questions de ces jeunes curieux, ces jeunes réalisateurs lors de ce masterclass. Ensuite, on fait un petit entracte avec un petit dîner un buffet dînatoire, pardon. Et Sanctuaire, donc notre association, qui va projeter le court-métrage produit par Sanctuaire. Est réalisé par Clément Lacroix et Raphaël Roca.
Ouais. Est-ce que ceux qui vont aller, évidemment, ceux qui se voient octroyer les prix, est-ce que ça va leur permettre de se professionnaliser davantage ? Est-ce que ça va leur permettre de mettre le pied à l'étrier dans le monde du cinéma ? Ça va leur permettre quoi, évidemment, avec ce tampon, si je peux me permettre cette expression, de ce festival cinémante ?
Alors, tout festival, c'est un tremplin pour de jeunes réalisateurs, ceux qui sont pas forcément connus. Donc, ça fait office de carte de visite. Ils ajoutent une ligne dans leur cursus, dans leur CV. Et évidemment, ils gagnent en visibilité, ils gagnent en confiance, ils gagnent en estime de soi. Et ça rapporte, je pense, hein, pour leur développement personnel et professionnel, ça rapporte énormément.
Est-ce que, à terme, le but, parce que là, vous en êtes à la deuxième édition, le festival, votre festival Cinémante, c'est aussi de créer des ponts, des passerelles pour, participer au grand festival international, hein, de Cannes?
Alors, effectivement, Cannes, on va dire que de chez nous, à Mantes, pour beaucoup de jeunes réalisateurs, ça paraît inaccessible. Donc, plutôt que d'attendre de faire la queue, si je peux dire ça comme ça, eh ben, ils peuvent toujours exister et puis mûrir dans leur discipline.
Ouais, parce que ce qui est vrai, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais on l'aura compris, c'est que il y a de véritables pépites dans le 78, notamment parmi les réalisateurs, les jeunes réalisateurs. Hein.
Oh, j'en découvre au fur et à mesure. Il y a vraiment des talents, vraiment des talents qui demandent qu'à être connus et reconnus.
Est-ce que dans ce vivier de talents, c'est aussi prometteur pour les années à venir, c'est-à-dire dans ce vivier, il va y avoir dans ce festival Cinémante la ville, Cinémante en tout cas, oui. De grands réalisateurs de demain.
Eh ben, je le souhaite de tout cœur, hein, vraiment. Je le souhaite de tout cœur parce que moi, la première chose que j'observe, c'est que à travers ces jeunes réalisateurs, ils ont les yeux qui pétillent et donc ils sont vraiment passionnés. Et c'est vraiment, ils le font d'une sincérité. Et ça me motive vraiment à continuer à faire exister ce festival qui fait office de tremplin, évidemment. Et bien sûr, notre association, elle tisse une toile. On a contact avec par exemple Jean-Rachid Kalouche qui nous soutient et n'attend que qu'on le sollicite parce qu'il nous apporte aussi énormément de soutien et d'aide hein, quelconque. Hein, il a répondu présent s'il y a besoin justement de continuer à faire évoluer les jeunes talents d'une part. Et notre association Sans Que Tu Erres et le monde du 7e art avec ses réalisateurs indépendants.
Ben merci Mohamed Cheikh, l'organisateur de cette deuxième édition du Festival Cinémante. Allez-y, franchement, c'est aller découvrir les pépites, aller découvrir les talents de demain aussi, mais aller découvrir et tout simplement soutenir les 16 courts-métrages qui ont été sélectionnés, qui seront diffusés tout au long de ce week-end, le 20 et le 21 avril. Donc ça veut dire ce week-end, à partir de 14h, à la salle Jacques Brel, à Mantes-la-Ville. Donc allez-y et évidemment, allez voir... soutenez tout ça, Mohamed Cheikh, tout simplement.
Merci infiniment.
Et bon courage, bon vent pour cette deuxième édition.
Yeah, merci.
Bon vent. Et on est de tout cœur avec vous. Bon courage en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Mohamed.
Merci de nous avoir invités. Merci Adil.
Avec grand plaisir, nous vous marquons la première pause et on se retrouve tout de suite après, vous savez quoi, avec les débatteurs influenceurs. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti, vous le savez, le face-à-face, chers amis.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face, comme chaque soir, vous savez, c'est des voix que vous connaissez, tout simplement, que je vais présenter. Jonas Haddad, bonjour, qui représente les Républicains, mais il est conseiller régional en Normandie.
Bonjour, ça va, je suis vraiment ravi de vous retrouver.
Mais oui, ça va, vous savez qu'en Normandie, on déchire l'audience là-bas.
Ah, mais je sais, Évreux, Rouen, Le Havre.
Hier, j'ai eu que des auditeurs d'Évreux, hier.
Eh ben, on leur passe un grand salut.
Ouais. Vous avez du boulot, hein, du pain sur la planche, mon cher conseiller régional. Hein. alors, il est banquier d'affaires, mais il est aussi élu sur la ville de Bondy.
Exact.
Il est très content d'ailleurs de s'impliquer. C'est toujours drôle de dire un banquier d'affaires qui s'implique localement dans une ville. C'est vrai. Hein.
Et en Seine-Saint-Denis, il y en a bien eu deux qui ont été présidents.
Qui
président de la République.
Ah oui, vous avez raison. En plus, ils ont un peu été dans la même école. c'est vrai, je suis pas là pour dire les choses, mais bon, bref. Thierry-Paul Valette, il est candidat aux élections européennes. Rappelez-nous, tiens, votre parti, mon cher Thierry-Paul
Valette. L'Europe équitable, et c'est la liste de l'Union pour une Europe arc-en-ciel. Arc-en-ciel en rapport à Nelson Mandela et la lutte contre l'apartheid et tout ce qui allait avec. C'est important de le rappeler face à la montée des populismes en Europe partout.
Et vous aviez tapé auprès de tous les médias pour dire que nous aussi, on a le droit de citer justement pour les plateaux.
Bien sûr.
On vous néglige, les petits partis, on les néglige. Même sur le Républicain. Non, mais c'est vrai, on les néglige souvent. Hein. Il a tapé un coup de gueule et.
Vous savez que les grands partis aussi, on les néglige avec les nouvelles
règles. Arrêtez votre parti,
pas dans les médias, on les voit partout. Mais vous savez.
Non, Jonas Haddad, s'il vous plaît. Maître, vous êtes avocat.
Écoutez, moi, je ne sais pas pour faire plaisir à votre audience, mais je trouve qu'on voit beaucoup plus, par exemple, le RN et LFI que les Républicains.
Et Glucksmann et les autres, mais il faut savoir quand même
Glucksmann, c'est la
Glucksmann,
coqueluche.
Il est partout. Hein.
La Glucksmann, c'est la coqueluche. Le PS est ressuscité. Alléluia.
Bon, allez, vous savez quoi, on va parler. Justement, attendez. Justement, ne nous étalons pas. Vous savez quoi, on va parler d'une conférence. La conférence qui a fâché tout le monde, les sympathisants, les politiciens, les mélenchonistes, les LFistes. Bref, vous savez quoi, c'est la guerre qui est déclarée. La conférence de Mélenchon sur la Palestine, l'université de Lille, qui interdit l'événement. Et là, ça secoue les réseaux sociaux et ça secoue le monde politique. Parlons-en. Qui veut prendre Thierry Paul Valette, allons-y.
Bon.
En plus, vous êtes en direct, je vois, sur vos
oui,
réseaux sociaux.
Exactement. Moi, j'étais à l'université de Lille à l'invitation de l'ESPEL il y a une semaine, oui. Avec les représentants des partis politiques pour faire une conférence. Oui. Et on est venu parler d'Europe et on a laissé de côté toutes les considérations, on n'a apporté aucun conflit. Seulement, la problématique, c'est que Lille, c'est une université. C'est une université, et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les universités? Il y a la montée de l'antisémitisme. On le voit aux États-Unis et on le voit aussi en France.
Fait peur le leader de la France insoumise, Mélenchon?
Le problème, c'est que venir tenir une conférence dans une université auprès d'étudiants, alors que on ne reconnaît pas le Hamas comme un groupe terroriste.
J'avais une représentante de LFI, oui. Justement une des porte-paroles, qui devait venir ce soir, et elle a eu un empêchement, c'est Sabrina Nouri. Donc là, effectivement,
Bien sûr, mais voilà. En tous les cas, c'était pas très malin, c'était pas très intelligent de venir à Lille avec des flyers, avec des petits logos par rapport à la Palestine, parce que c'est forcément mettre en opposition Israël de l'autre côté de la balance.
Mais c'est leur axe de campagne, voilà, vous le savez. Mais je vous l'apprends pas.
Mais non, mais justement, c'est ça qui est dramatique. Un axe de campagne au sein d'une université, alors qu'on ne reconnaît pas le Hamas comme un groupe terroriste, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et moi, je le comprends totalement. Les universités, justement, c'est ça la problématique aussi. Il y a une forte montée de l'antisémitisme. Donc on cherche à quoi exactement? Maintenant à opposer les étudiants les uns contre les autres, comme l'a fait le président Emmanuel Macron ces 10 dernières années en opposant les citoyens.
Mais tout ça, est-ce que ça ne fait pas gagner justement
la liberté d'expression?
Les mélanchonistes, c'est ça que je me pose comme question.
Il n'y avait pas à importer le conflit israélo-palestinien.
En annulant la série des conférences, est-ce que ça ne fait pas monter les filles justement durant cette campagne? C'est aussi ça, hein, Jonas Haddad.
Moi je vais le dire à la fois à mes contradicteurs et aussi à mes auditeurs.
Oui.
Il y a une donnée qui est factuelle. Dans notre pays...
D'autant plus que vous êtes avocat, vous, donc il y a le droit.
Voilà. On a la plus grande communauté musulmane d'Europe et on a la plus grande communauté juive d'Europe. D'accord ?
Exact.
Donc si on veut que tout le monde vive bien ensemble, il faut arrêter les provocations. Mmh. Et d'abord, il faut arrêter, comme
là,
vous l'avez très justement dit... Je le dis à tout le monde, il faut arrêter d'importer ce conflit dans ce pays.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en gros, nous sommes français... Point.
C'est dommage, hein, Sabrina Nouri qui devait être là.
D'accord, elle pourra faire un droit de réponse. Donc on est français, point. Deuxièmement, il est vrai que ces derniers temps, je ne parle même pas des sujets israéliens, palestiniens, ces derniers temps, la LFI, ils croient que l'université, c'est une salle de meeting. Ils me l'ont fait à Rouen, ils l'ont fait dans d'autres endroits. L'université n'est pas un lieu de meeting politique. L'université, c'est un lieu où on apprend des choses, mais ça n'a pas vocation, il peut y avoir des débats. Mais ça n'a pas vocation à être des salles de meeting. Mmh. Troisièmement, l'affiche, mais Mélenchon n'est pas stupide, il est très fin.
Avec le drapeau.
Non, l'affiche est simple. L'affiche, c'est le territoire israélien et palestinien, qui normalement est un territoire reconnu par tout le monde comme étant. À part le Hamas, effectivement, il n'y a personne qui reconnaît que tout ce territoire-là est palestinien. Et ils ont pris un logo où il y a marqué Palestine libre, et ils mettent tout le logo en rouge comme si l'intégralité du territoire était donnée aux Palestiniens, conformant ça au slogan qu'on entend, vous le disiez très justement, dans les universités américaines, From the river to the sea, Palestine will be free. Ça veut dire en gros qu'il n'y ait plus du tout d'existence de l'État d'Israël. Mais vous imaginez à quel niveau d'inflammation porte Mélenchon dans ce pays. Enfin, franchement, on a des élections.
Je m'adresse à l'avocat aussi.
On a des élections européennes.
Oui, vous avez raison. Il y a la campagne qui bat son plein.
Merde, on
pourrait. Il y a les élections. Non, mais attendez, maître. Il y a les élections. Je parle à l'avocat. Les élections. Est-ce que ça ne risque pas d'avantager justement Mélenchon? Le fait systématiquement de vouloir interdire, annuler les conférences. Est-ce que ça ne renforce pas tous les mélenchonistes?
Alors moi, il y a un truc qui me rend.
Bah oui, puisqu'ils se disent, il y a la justice.
Alors
donc,
dans ce cas-là,
si ils considèrent qu'il y a la justice, eh ben nous, on va y aller voter.
Vous savez, dans ce cas-là, ça fonctionne pas parce que ça fait au moins 10 ans que dans toutes les universités, je prends l'exemple de Gilles Kepel, que vous avez reçu à plusieurs reprises. Bah, oui, je prends l'exemple d'Alain Finkielkraut. Les militants insoumis organisent des manifestations pour demander à tous les gens. La dernière fois, il y a même quelqu'un du PS qui avait été interdit. Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec leur idéologie, ils disent c'est l'extrême droite, c'est le fascisme. La dernière fois, il y avait à Sciences Po des militants de la LFI qui se sont mêlés à d'autres pour demander à faire sortir tous les étudiants juifs de la salle. Donc c'est les premiers qui passent leur temps à censurer des gens dans les universités.
Et qui se victimisent
et
après.
Dès que ça leur arrive...
Ils victimisent.
Premier point. Deuxième point, il ne s'agit pas là d'une censure. Encore une fois, moi, les meetings politiques, je suis même quasiment pour une conception parfois à l'américaine. Alors, bon, il y a des limites. Il n'y a pas d'incitation à la haine. Mais pour le coup, la liberté de parole... Mais c'est une université, c'est-à-dire que c'est votre argent, c'est le domaine public. S'ils veulent aller louer une salle pour dire la Palestine doit être libre et dans ce cas-là, il faut nettoyer tous les juifs, ils en tireront des conséquences juridiques, mais ils ont le droit d'organiser ça dans
une salle
privée.
Est-ce qu'on peut parler d'antisémitisme comme on le voit un peu partout fleurir sur les réseaux sociaux ?
Mais moi, il faut arrêter de parler d'antisémitisme, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que lorsqu'on met un logo dans lequel il y a un pays qui est divisé en deux, on met un logo dans lequel il est tout rouge. En gros, il y a plus d'État israélien. Enfin, je veux dire, là, on est dans des trucs, c'est délirant. Mais qui peut accepter de dire qu'il y aurait plus d'État ? C'est-à-dire, on prend les 6 millions d'habitants israéliens, on leur dit maintenant vous partez.
Mais par contre, non. On peut pas écarter l'antisémitisme parce qu'ils y contribuent. C'est important de le rappeler.
Karim Alouache.
Alors moi, je voudrais réagir. D'abord, il y a ce qu'on dit, ce qu'on utilise en politique et la réalité du terrain. Et aujourd'hui. Sur le terrain, je parle de où je vis, en 93, il n'y a pas de conflit entre les deux communautés musulmanes et juives. Et ça, je tiens à le rappeler, et il n'y a pas de difficulté particulière là-dessus. Même
il n'y a
si,
pas d'animosité, c'est ce que
ni
vous dites.
D'animosité, même
d'accord.
Si beaucoup
non,
de gens
dire,
essayent d'attiser
bien.
Le feu,
ça moi, j'ai bien aimé Jonathan David, on est français, tout court, voilà.
Ça ne prend pas.
Après, chacun est de confession différente, mais on est français.
Ça ne prend pas et ça ne prendra pas. En ce qui concerne...
Vous êtes convaincu de ça ? Ça ne prendra jamais.
Ça ne prendra jamais, parce qu'en fait, on vit ensemble depuis très longtemps, et les origines de chacun font qu'on est condamné à vivre ensemble, et on est habitué surtout à vivre ensemble. Et on a beaucoup plus de points communs que de points de divergence, malgré tout ce dont nous assistons aujourd'hui, où je rejoins certaines personnes, c'est de dire... tout le monde a le droit à l'existence, à avoir une terre et un pays, et ça, c'est irrévocable. Et tant que ça ne sera pas garanti pour tout le monde, je dis bien pour tout le monde, ce qui s'applique pour les uns, ça doit s'appliquer aussi pour les autres. On doit y arriver. J'ai toujours dit que le sujet... Vous savez, moi, j'ai fait mes études dans les années 80, et il y avait déjà des manifestations et des mouvements Palestine, etc. Et moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que la solution viendra directement d'Israël, tout simplement, et du peuple israélien qui, pour une grande majorité, souhaite mettre fin à un moment donné à cette vie, à ce conflit, qui n'en est pas une. Et tout le monde aspire, vous avez fait référence tout à l'heure à Mandela, tout le monde aspire à vivre sur une terre libre et en sécurité, que ce soit un peuple ou l'autre peuple, je précise bien. En ce qui concerne l'événement, ce qui me dérange dans l'événement, c'est le fait qu'on l'ait d'abord autorisé puis annulé. Ça veut dire que derrière, il y a eu des actions. Il y a d'abord des autorisations. Si on l'autorise, c'est qu'on a vu le sujet, qu'on a vu la présentation. Et vous savez, aujourd'hui, on autorise des meetings politiques, des extrêmes dans les universités. Ça dérange pas. J'ai fait mes études à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'étais collé à ça.
Que pour l'extrême gauche.
Et des meetings de l'extrême droite, j'en ai vu des kilos passer et ça a dérangé personne.
Et vous dites que
maintenant,
pour l'extrême gauche.
Maintenant que l'on veut en faire un sujet et un débat. Moi, je dis toujours à qui ça profite. Et si on voulait faire une publicité à Mélenchon, on est en train de le faire parce que là, on va en parler pendant deux jours ou trois jours.
Bah, tous les médias ne parlent que de ça.
Le problème, c'est qu'il y a des lignes rouges.
C'est là-dessus où il faut à un moment donné arrêter. Tout le monde, aujourd'hui, tous les partis, tout le monde joue avec les événements internes, externes, mondiaux,
excusez-moi,
avec
non.
la misère du monde pour faire des campagnes.
Donnez-moi une seule autre liste aux européennes.
Et il y a des... Aujourd'hui... On voit des mouvements se faire parce qu'il y a les élections européennes
non.
et des partis
on peut pas tout
ou des
sur
groupes
plan,
qui
mais non.
font croire qu'ils s'intéressent à une chose et puis une fois les élections parties, ils repartiront
qu'est-ce
à faire.
Pourquoi Jonas Adel, répondez-lui.
Est-ce que vous pouvez imaginer que demain il y a un meeting, par exemple, je sais pas, de Macron ou de la droite, qui dit situation en Israël avec une grande carte dans lequel on a juste le Israël et puis on raye les territoires palestiniens. pour un meeting aux européennes. Mais qui imagine ça? Qui le tolérerait? Non, moi, qui l'autoriserait? Donc faut pas dire tout le monde le fait, parce que non, il y a qu'un parti. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi, je termine juste par rapport à ça. Je veux que nos auditeurs comprennent. Mélenchon, il disait l'exact inverse il y a 5 ans. Son discours a totalement changé. C'est un opportuniste de la politique. Il a vécu avec Mitterrand. Et maintenant, il a été sénateur socialiste. Il a bien bouffé. Maintenant, il a compris que c'était plus la mode et il avait un électorat qui avait changé. Il change encore. Que personne ne se laisse duper par cette manipulation. C'est la seule liste qui utilise ces trucs-là pour avoir des voix en plus. Et je vous dis encore une fois, ça m'aurait tout autant choqué, et je pense que ça aurait choqué beaucoup de gens, si, je sais pas, prenons un exemple. Oui. Bellamy. Moi, je soutiens Bellamy aux européennes.
Oui.
Imaginez-vous, demain, Bellamy, il fait un meeting dans une université et il dit la situation en Israël avec une carte d'Israël tout bleu et on raye les Palestiniens. Mais on est où, là?
Oui.
Il a pas besoin de faire ce meeting-là, parce que ce qui se passe, franchement, c'est extrêmement grave et désolant pour l'humanité et l'humain.
Ça, on est d'accord.
Voilà.
Il faut pas en jouer.
Non, mais là-dessus, donc ça existe déjà. Moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, vous avez fait allusion. Moi, je suis sans étiquette. Hein, je suis dans aucun parti et je parle extrêmement librement. Ce que fait Mélenchon, tous les hommes politiques aujourd'hui, allez voir l'entourage. Je vous rappelle quand même que l'entourage de Macron, c'est tout simplement l'ancien PS, et qu'à côté de lui, il a des soldats, une garde rapprochée qui sont des LR. Donc tout le monde mange à tous les râteliers. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que les Français ne croient plus au discours politique et ne croient plus aux hommes politiques, tout simplement. Et les gens sont pas idiots. Ils le voient bien qu'en ce moment, il y a du mouvement parce qu'il y a des élections, et qu'une fois que les élections passées, le mouvement va s'apaiser comme toujours, et on n'arrive même plus à comprendre que les gens utilisent les peuples, les événements, les guerres, tout ce que vous pouvez imaginer pour faire de la politique. Ça existe, ça a existé et ça existera toujours. Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi avoir autorisé d'abord et ensuite interdit? Et qu'est-ce qui a changé, en fait, entre les deux? Tout simplement. Après que l'université soit un milieu de débat politique, je veux pas vous rappeler l'UNEF et tout ce qui se passe dans les universités.
Ça, je laisse le soin aussi aux auditeurs, s'ils souhaitent intervenir au 0153 48 3000, vous pouvez venir commenter ce sujet d'actualité et venir nous faire part, évidemment, de cette annulation de ce meeting concernant Mélenchon sur la ville de Lille au sein de cette université. Parlons de ce second sujet. Solal vous accueille, bien sûr, au standard. 0153 48 3000. Nouveau bilan. C'est la fameuse opération XXL. Souvenez-vous, la lutte contre le trafic de drogue qui a interpellé, je lance le chiffre, 3814 interpellations depuis mi-mars. Depuis, ça veut dire depuis la visite d'Emmanuel Macron, souvenez-vous, sur la ville de Marseille. 599 personnes déférées. Est-ce que on est là dans un 5, puis, attendez, je vais vous dire un peu partout. Là, on parle, vous savez quoi? De démultiplier, hein. Il y a la région parisienne, il y a Lyon, Dijon, Clermont-Ferrand, Lille, Toulouse, Nantes, Strasbourg, etc. Plus de 500 armes, 170 véhicules ont été saisis, 55 000 policiers et gendarmes mobilisés. Que doit-on comprendre? Alors messieurs, je vous pose la question. Coup de com' ou véritable bilan, Jonas Haddad?
Alors d'abord, on peut jamais regretter qu'il y ait des choses qui soient faites en la matière. Et d'ailleurs, comme on dit souvent, le poisson pourri par la tête. Récemment, il y a des élus qui se sont fait pincer. La maire d'Avallon, d'accord, qui avait de la cocaïne, des choses de cet ordre-là. La maire de Canteleu, tête de liste socialiste en Normandie, qui quand même donnait des logements sociaux, apparemment, de ce qui ressort, hein, je ne veux pas préjuger de l'enquête, mais à des trafiquants. C'est-à-dire que le trafic de drogue a tellement infecté notre pays que jusque dans les mairies, chez les élus, chez les maires, il y a des gens qui se pense que c'est quelque chose sur lequel on peut jongler. On ne jongle pas avec la drogue, c'est un fléau qui fait beaucoup de mal. Et quand je vois ces derniers temps des gens dire « Ah, oh, bah finalement, peut-être que c'est plus le sujet, etc. Bah, » excusez-moi, si à terme on veut avoir une société dans laquelle c'est l'alpha et l'oméga du développement pour les jeunes, moi je pense pas que ce soit le bon cas. Alors après, évidemment, tout le monde va me dire « Ouais, mais tu vois bien, la politique de répression, ça a pas fonctionné, etc. » Oui, peut-être que ça ne fonctionne pas. Mais en attendant, la politique de dépénalisation et de légalisation, moi, me choquerait beaucoup. J'en terminerai par là, et c'est quelque chose que j'observe ces derniers temps, c'est la plus grande de toutes les incohérences. Les écologistes, dès qu'il y a une petite substance toxique dans l'air, ou dans vos poils téflon, vous avez vu ça, cette polémique récemment, ils disent « Oh là, faut interdire cette substance !» Ils ont raison, c'est pour notre santé. Donc il y a des sujets sur lesquels ils ont raison. Parce que l'important, c'est la santé des gens. Et si l'important c'est la santé des gens, on peut pas d'un autre côté dire faut rien faire contre la drogue, parce que tout le monde sait que la drogue est une substance nocive. Donc soit on est pour la santé des gens, et dans ce cas-là, on fait en sorte d'interdire, et c'est le progrès de l'humanité, on interdit des choses qui sont mauvaises pour sa santé, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a une meilleure espérance de vie, soit on dit on fait rien, et dans ce cas-là, bah, on n'a qu'à autoriser toutes les substances nocives pour la santé.
Karim Alouache et ensuite Thierry-Paul Valette.
Bah, tout d'abord, il faut.
Et vous êtes concerné localement aussi.
Mais bien sûr, mais tout ce qui est fait, même si on a l'impression d'écoper avec une cuillère à café et que le travail est long, tout ce qui est fait est bon à prendre. Et là-dessus, il n'y a pas de débat et on n'a pas à en débattre. Maintenant, la réalité, c'est le problème du trafic. Il est d'abord sur l'aspect judiciaire, parce que c'est bien beau d'arrêter les personnes, mais si derrière la justice peut pas faire son boulot et avoir, je dirais, des outils efficaces et dissuasifs, on n'y arrivera pas. La deuxième chose, c'est la réalité du terrain, et je pense que beaucoup de gens, beaucoup de politiques sont totalement hors sol. C'est une vraie économie parallèle.
Ça veut dire quoi,
qui s'est développée? Non, ça veut dire qu'en fait, il y a une économie qui s'est développée. Vous savez, moi, j'ai été élu depuis.
On dirait que vous nous dites des choses comme si on le découvrait.
Mais c'est une économie structurée.
L'économie parallèle existe depuis 50
ans. Pas depuis 50 ans. Moi, quand j'ai pris mon premier mandat en 2014, à chaque conseil municipal, il y avait des délibérations pour remise gracieuse de loyers impayés au niveau des logements sociaux. Et il y en avait un paquet. Je me souviens, ça appelait en série, et puis il y avait des montants volants. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure des années. Alors moi, je suis sans étiquette et je suis toujours dans l'opposition, même si la municipalité a changé de bord. J'ai l'impression de faire exactement le même boulot des deux côtés. Et puis, j'ai vu que les loyers impayés diminuaient. Et j'ai posé la question. J'ai dit, mais comment ça se fait? Eh ben, je vais vous expliquer, parce qu'il faut parler avec les gens sur le terrain. Il y a une réalité. C'est que vous avez d'abord des gens qui font ça. Et qui derrière, cet argent qui est de l'argent sale, soyons clairs, l'argent de la drogue, vont payer les loyers. Et puis les bailleurs sociaux sont contents quand les loyers sont payés. Et puis il y en a d'autres qui vont dire oui, mais vous savez, il y a du trafic dans ces quartiers-là, mais c'est des quartiers en fait tranquilles parce que les consommateurs, ils vont pas aller là où ils risquent de se faire dépouiller, etc., etc. Je trouve ça scandaleux. Il y a même qui organisent des choses, etc. Ce qu'il faut avoir la réalité, vous avez par exemple des gens qui vont faire le chouf pendant 2-3 jours pour arrondir leur fin de mois. C'est une réalité, hein. Et puis maintenant, il y a un nouveau phénomène, puisque parfois la main-d'œuvre devient compliquée à trouver. Vous avez aussi toute la partie des clandestins qui ont été recrutés, qui vont venir. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui en bas des cités qui font le guet, qui n'ont rien qui viennent même pas du tout des cités, comme si c'était devenu un job structuré et surtout structurant. Il faut sortir de ça. Il faut mettre fin
à ça. Mais comment? Vous n'avez pas plusieurs options, mon cher Karim Alouache.
Non.
C'est soit on légalise.
Pas. Moi, je suis contre la légalisation.
Bah, les gens de gauche parlent de légaliser.
Je suis contre légaliser tout ce qui nuit à la santé. Et de toute façon, on le payera indirectement au travers d'autres phénomènes. C'est comme l'alcool, c'est comme les cigarettes. Vous avez vu toute la campagne, on essaie de persuader les gens d'arrêter de fumer en ayant des prix dissuasifs. C'est pas la légalisation, la solution. La preuve en est, cigarette c'est légalisée.
Certaines voix qui montent au créneau qui vous disent l'alcool tue autant et c'est une erreur. La cigarette tue autant. Erreur.
Oui, mais on va
on va pas rajouter un problème à beaucoup de problèmes. Bah, et vous voyez aujourd'hui, il y a un gros trafic de cigarettes qui devient presque pas aussi important que la drogue, mais pas loin, qui s'en rapproche. Aller dans toutes les gares aujourd'hui, quelles que soient les villes, vous avez des vendeurs à la sauvette qui se sont installés
et qui
vendent soit des cigarettes contrebande, soit des contrefaçons, etc. Et on verra les dégâts dans quelques. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut reprendre parmi les plus jeunes et il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut remettre le fait, par exemple, que l'école c'est un ascenseur social et que ça marche et que ça doit marcher dans 100% des cas. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est pas construire des terrains de foot, c'est pas repeindre des cages d'escalier, c'est pas de faire une action, même si de temps en temps il faut faire des actions coup de poing.
J'ai l'impression de replonger dans les années 90.
Mais la réalité,
oui,
c'est
mais,
pas.
Regardez, Adil, si on va dans les années 90, il y a des zones, des pays qui ont réussi à juguler la drogue dans les années 90. Quand vous êtes à New York.
Et qui a aussitôt repris.
Non? Bah c'est pas vrai.
Il se déplace. Moi je me souviens d'Harlem, c'était une zone effectivement, mais le phénomène s'est déplacé.
D'accord, mais en attendant, ça veut dire qu'il y a bien un moment dans lequel il faut qu'il y ait des endroits de paix. ou dans les endroits dans lesquels les gens ne sont pas ravagés par la drogue.
Allez, Solal, le réalisateur me fait signe qu'il faut lancer la pause. On se retrouve, j'ai Thierry Paul Valette qui doit aussi prendre la parole sur ce sujet et on doit avancer aussi.
Oui, parce que je vois que les gens réagissent sur le live par rapport au sujet.
Oui, oui. Écoutez, vous allez voir, vous allez réagir. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Effectivement, le débat continue, y compris pendant la pause. Non mais un sujet, effectivement, hein, qui est récurrent, qui revient, on le traitera dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Thierry Paul Valette, tiens. On écoute votre avis avant de passer. Après, on ira à la direction l'Iran. Tiens. Bon, autre sujet sensible.
Beaucoup de points qui sont contradictoires et qui je suis en désaccord, mais je vais faire. Moi, je vais faire simple, efficace. De toute façon, j'étais venu ici, on en avait discuté
plusieurs fois. Je me rappelle avec vous.
Quand on avait pris la décision de lancer cette grosse action d'envergure coup de poing. Bon, c'est bien.
Darmanin qui a accordé une longue interview ici, hein, en exclusivité.
Oui, voilà, exactement. Il y a à peu près 10 jours.
Oui.
Alors. On est allé dans des banlieues, on est allé dans des zones où c'est assez à risque avec le trafic de drogue et pas que. On a découvert qu'il y avait des armes et pas que. Mais on mélange tout parce que la problématique des trafics des armes, ça a toujours existé. C'est aussi avec la drogue, mais là c'est pas pour le trafic des armes qu'on y allait. Là, il y a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, on envoyait des armes. Moi, j'y suis allé là-bas. Il y a eu des armes, des caisses entières qui ont disparu. Voilà, qu'on va retrouver dans les banlieues, dans les casses et dans tout le reste.
Non, elles ont été vendues.
Maintenant, ça c'est pas le sujet. Oui, bien sûr, vendues et bien sûr qu'elles ont nos marchés noirs et après elles alimentent le grand banditisme et toutes les problématiques qui vont avec. Maintenant, la drogue, j'ai envie de dire, déjà, on n'a pas essayé de légaliser, ne serait-ce que pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, pour voir ce que ça va faire.
Vous dites,
maintenant, la réalité.
Non, vous dites, Jean Lassana et Karim Allah, je vous dis que ça va provoquer des dégâts.
Moi, je veux bien, mais je vous ai laissé parler, sagement, pour l'anti sur le sujet.
D'autant plus, vous êtes candidat aux européennes, donc c'est peut-être.
Et c'est encore une. Et j'ai envie de dire que c'est une problématique qu'il faut traiter, non pas à l'échelle nationale, parce que c'est un échec, on le voit, gouvernement après gouvernement, c'est un échec total. Il faut le traiter à l'échelle européenne.
Donc vous êtes pour la légalisation.
Il faut essayer, en tout cas, comme l'Allemagne vient de le faire.
Vous êtes favorable.
Oui, j'y suis favorable. Il faut essayer.
D'accord.
Et de toute façon, on parle de la drogue. Mais le tabac tue, l'alcool tue aussi. C'est ça aussi la réalité.
Pourquoi vous êtes favorable ?
Pour rajouter un nouveau problème à tous les problèmes qu'on a déjà.
Non, c'est pas rajouter.
Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors moi, je vais pas répondre à Monsieur le ventriloque. C'est pas l'animateur, avec tout le respect que je vous dois. Mais pour
répondre. Et vous a interpellé.
Oui, non, mais je sais, c'est pas rajouter un problème. Pourquoi ? Parce que comment on peut déjà préjuger de quelque chose qu'on n'a pas essayé, qu'on n'a pas mis en place ?
Vous plaisantez, vous savez pas que
le cas. Non, je ne plaisante pas. France, à ce jour, à aucun moment n'a été mis en place l'exemple de dépénaliser le cannabis. Ah, bon, je parle pas de la cocaïne, je parle pas du crack et je parle pas de toutes ces drogues-là. Du moins, c'est en tout cas légalisé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, elle est dépassée. La France n'a plus les moyens et la France s'y prend très mal. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a arrêté des gens. On a arrêté des dealers. Ils vont être jugés pour certains, près de 500, je crois. Et la justice, il n'y a plus de place dans les prisons. Ils vont ressortir. Donc finalement, d'ici. Tout ce qui est fait, c'est toujours bon à prendre. Mais dans 6 mois, le problème, il ne sera pas résolu. Donc il faut trouver des solutions à l'échelle européenne.
Donc par exemple, il y a des gens qui fréquentent des prostituées. Donc il faut légaliser le proxénétisme. Pour vous. C'est-à-dire que quand il y a un fléau qui est là, c'est-à-dire que
bah, je crois que le proxénétisme ne tue pas, la prostitution ne tue pas, comme la drogue.
Le proxénétisme ne tue pas. En fait, c'est un
raisonnement
qui est profondément sophistiqué.
C'est pas le même raisonnement. La prostitution, elle tue pas des centaines de
personnes. Attendez.
C'est pas la même chose, le débat sur la prostitution et sur la drogue.
Attendez, vous répondez.
Vous avez une réponse politique. Vous avez une réponse politique.
Non, c'est pas une réponse politique.
Laissez la réponse, s'il vous plaît. Thierry Paul Valette. Jonas Haddad.
Vous avez une réponse qui consiste juste à baisser les bras. Pour moi, c'est pas une réponse.
Pas du tout.
Bah si.
Bah pas du tout.
Et deuxièmement,
la prostitution, elle tue pas des enfants, elle tue pas des dizaines, des milliers de personnes tous les ans. La prostitution,
renseignez-vous.
En France.
Renseignez-vous sur le proxénétisme.
Ah ben sortez-nous les chiffres alors.
Renseignez-vous.
Sortez-moi les milliers d'enfants qui meurent de la prostitution tous les ans.
Bah renseignez-vous.
C'est pas le cas. C'est pas la même chose que la prostitution.
En parlant de la prostitution, c'est Thierry Paul Valette et je vous l'apprends pas, vous le savez, je l'ai traité ici sur cette antenne même. C'est aussi des collégiennes qui sont concernées.
Mais je dis pas le collégien.
Et quand j'ai appris que dans les quartiers populaires, on les recrutait les gamins. Les collégiennes, je vous avoue que ça m'a rendu
furieux. Non, je suis pas d'accord. Non, parce que les auditeurs, ils vont dire la prostitution, c'est bien. Non, je suis d'accord, Adil, exactement. Je suis juste en train de dire la prostitution en France, de la manière dont elle est encadrée, je parle pas de la clandestine pour l'instant, elle fait pas des dizaines et des dizaines de milliers de morts chez les clients et chez les enfants. C'est pas comparable. C'est tout ce que je dis.
Vous l'avez énervé, Jonas Haddad.
Oui, mais.
Candidat. candidat.
Comment il disait Sarkozy, c'est que quand on veut être candidat aux européennes, faut être calme.
Non, mais c'est pas. Non, non, moi je suis pas Sarkozy. Non, mais...
D'accord.
Je suis pas candidat.
Vous avez parlé du mauvais personnage. Ah, c'est son ennemi. Hein.
Et deuxièmement,
non mais moi, je vais juste vous dire un truc.
Et j'terminerai par là. Et je vous laisse vraiment la parole.
Ça m'intéresse pas. Je vous laisse à vous, cher maître.
Et attendez. Et deuxième chose. Moi, ce qui est assez dingue, et je laisse la parole à l'autre personne, mais ce qui est assez dingue, c'est comment vous niez absolument l'unanimité médicale sur les ravages du cannabis, notamment sur les plus jeunes.
Mais c'est pas ce que j'ai dit.
Bah si, vous dites mais c'est pas grave, pas on expérimente, mais on expérimente
je
pas.
Je n'ai pas dit que ce n'est pas grave la problématique de la drogue. Là, vous êtes en train d'extrapoler mes propos. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut essayer. Et j'ai répondu, il faut essayer de mettre en place un processus de dépénalisation contrôlé d'une manière ou d'une autre au niveau du cannabis, au niveau du cannabis et non pas au niveau de la cocaïne et du crack comme on l'a fait dans certains pays à une échelle européenne.
Mais ça veut dire qu'on va consommer beaucoup plus.
Donc me tenir les propos que j'ai dit que la drogue ne tue pas, hein, ça, maître, excusez-moi de vous dire, ça c'est digne d'un politicard, voilà, républicain de plus est.
Si je peux me permettre.
C'est pas une insulte, hein, c'est un compliment.
C'est un constat, hein, si, c'est un constat. Je suis pas dans la posture comme
vous. Clochette, allez.
Moi, je suis sur le terrain depuis des années.
Bibim, il s'est adressé à l'avocat et aux républicains.
Bon.
Paf!
Allez, on va pouvoir le dire.
Il est vénère, notre candidat.
Non, moi, ce que je veux dire, une chose. D'abord.
Jonas Haddad, vous l'avez chauffé, vous aussi.
Le peuple n'est pas un cobaye.
Bien sûr.
Et on fait pas des expériences avec la population. Je vais pas refaire le débat sur le cannabis. Toute addiction est quelque chose de négatif et nuit à la société, tout simplement, puisque les gens sous emprise peuvent commettre des crimes, des accidents et tout. On va pas refaire le débat. Les pays qui ont légalisé, les Pays-Bas, s'ils pouvaient faire machine arrière aujourd'hui, ils feraient machine arrière.
Bien sûr.
Ils n'y arrivent pas.
Ah, exactement.
C'est même pire qu'avant. Les États-Unis ont légalisé. Allez à New York aujourd'hui, vous allez voir la catastrophe. La déchéance dans de nombreux quartiers. Et si vous prenez les New-Yorkais, je pense qu'à la prochaine élection, le maire, il va sauter, ils vont remettre quelqu'un de bien dur, et il va remettre de l'ordre là-dedans. Même des choses légales, comme la cigarette, entraînent du trafic aujourd'hui.
Bien sûr, mais
de manière
aussi
invivable. Et le trafic entraîne de la délinquance, du banditisme, tout ce qui tourne autour et qui nuit à la population. Ouais. Moi, ce que je crois, c'est que il n'y a pas une solution, il n'y a pas un outil, c'est un ensemble de mesures.
Bien sûr.
Tu peux pas mettre la police
sans. Mais c'est
juste
que
mais tu peux pas mettre la police sans
judiciaire. Ça ne mène à rien du tout.
Vous êtes
déjà dans la posture de 2027.
On va organiser. Non, mais attendez, on va organiser un sujet vendredi ou un jeudi.
Bien sûr.
On va organiser un sujet autour de cette thématique et je vais réunir tous les acteurs.
Que cette thématique.
Je vais réunir tous les acteurs parce qu'il est important de le traiter. Il faut qu'on en parle. Dépénalisation.
Mais calmement.
Légalisation. Évidemment, calmement. Mais après, bon, je comprends. Moi aussi, c'est quelque chose qui lui tient. Un mot, s'il vous plaît, sur vous savez quoi, l'Iran, la situation est grave, donc on peut en parler. Benjamin Netanyahu, qui est silencieux, mais qui sous-pèse les efforts collatéraux d'une réplique israélienne. Est-ce qu'on peut craindre le pire scénario, Jonas Haddad?
Non seulement on peut le craindre, mais surtout, il est arrivé. C'est-à-dire qu'en gros, la frappe de l'Iran, vous avez regardé ce que disaient les Américains, ils disent en gros, c'était leur worst case scénario. Et donc le risque
Sauf que Joe Biden, il dit, si vous y allez, j'y vais pas.
Oui, sauf que Joe Biden, on ne sait pas s'il sera encore là bientôt. Et donc, si vous voulez, il y a eu toute une administration
américaine. Mais jamais avec Trump, c'est
pire. Je suis pas sûr.
C'est pas sûr. Bon, bah peut-être. Vous avez peut-être raison.
Je suis pas certain. Je suis pas. Il y a eu des errements dans la politique de Trump. Il y a aussi des errements dans la politique de Biden. Et il y a des choses qui sont allées dans le bon sens pour la paix avec Trump et d'autres qui sont allées moins dans le bon sens avec Biden.
Non mais soyons clairs, les élections américaines, elles arrivent, on voit bien qu'il y a un rétropédalage de Biden. Clairement, sur ce qui se passe depuis plusieurs mois, là-dessus, c'est extrêmement flagrant. Après, moi, je crois que, d'abord, à la base, il faut reprendre les aimants comme ils étaient.
Je vous rappelle quand même
qu'il y a une ambassade, il y a un consulat qui a été tapé dans un pays étranger. Si on tapait le consulat de France dans un pays, tout le monde se poserait la question. Maintenant, moi, je suis pas pour l'enveniment des choses parce que c'est toujours les peuples qui payent cher. Il faut pas sous-estimer. Moi, je crois qu'il y aura pas, de dérive parce que le monde ne peut pas se permettre une dérive aujourd'hui.
S'il vous plaît, je rends l'antenne.
Moi, je pense rapidement qu'on est plus dans une posture morbide, c'est que, forcément, l'Iran n'a pas la capacité d'affronter Israël, d'affronter les États-Unis. Bon, bien évidemment, faut qu'ils essaient de garder le contrôle et montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents. C'est plus ce qui s'est passé. Maintenant, pour l'attaque, c'est pas dans l'ambassade en elle-même, c'est le petit local qui était à côté où étaient réfugiés des gens qui sont une annexe. Où étaient des responsables de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre.
Bon, on continuera d'en parler. Merci Jonas Haddad.
Merci
conseiller régional, donc en Normandie.
En Normandie, et pour tous ceux qui nous écoutent en Normandie, on vous embrasse.
Allez le voir, Jonas Haddad. Allez-y, allez-y.
J'étais à Lisieux vendredi dernier.
Et ben voilà.
Mais tout le monde aime la Normandie. Moi, voilà.
Monsieur le banquier d'affaires.
J'avais un déjeuner d'affaires là-bas.
Voilà. Ah. Un déjeuner, toujours business. Hein,
avec une belle vue d'ailleurs, parce que c'est une belle vallée.
Karim Malos, à bientôt. Et l'élu de Bondy. Monsieur le candidat aux élections européennes.
Moi, je vais à Lisieux, c'est dans une cuvette, donc la vue sur la vallée, ça va être compliqué. Ça va
absolument.
Plutôt sur les hauteurs.
C'est tiré Paul Valette. La prochaine fois, ne nous le fâchez pas, Jonas Haddad.
Moi, je fâche personne. Et en plus, le PSG a gagné hier, donc.
Vive le PSG. Bilal Nenman vient prendre le contrôle dans Time Sport. Il va parler du PSG, justement, de cette belle victoire.
Ah, c'est Bilal, ok.
Ah, c'est Bilal tous les soirs.
Un doublé d'un Brondinois, quand même.
Hein. Ensuite, attendez, c'est Vanessa dans Confidence qui vous donne rendez-vous à 21h. Demain, c'est Kim. À demain avec autant de plaisir à 19h. Mais surtout, on ne lâche rien, les amis.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.